à Louise Collet, Croisset, vendredi minuit, 16 septembre 1853. Enfin, me revoilà en train. Ça marche. La machine retourne. Ne blâme pas mes roidissements, bonne chère muse. J'ai l'expérience qu'ils servent. Rien ne s'obtient qu'avec effort. Tout à son sacrifice. La perle est une maladie de l'huître, et le style peut-être, l'écoulement d'une douleur plus profonde. J'ai travaillé ce soir avec émotion. Mes bonnes sueurs sont revenues, et j'ai regueulé comme par le passé. Pourquoi perds-tu ton temps à relire Graziella, quand on a tant de choses à relire ? Manon Lescaut est peut-être le premier des livres secondaires. Je crois, contrairement à ton avis de ce matin, que l'on peut intéresser avec tous les sujets. Quant à faire du beau avec eux, je le pense aussi, théoriquement du moins, mais j'en suis moins sûr. La mort de Virginie est fort belle, mais que d'autres morts aussi émouvantes ? Parce que celle de Virginie est exceptionnelle. Ce qu'il y a d'admirable, c'est sa lettre à Paul écrite de Paris. Elle m'a toujours arraché le cœur quand je l'ai lue. Que l'on pleure moins à la mort de ma mère Bovary qu'à celle de Virginie, j'en suis sûr d'avance. Mais l'on pleurera plus sur le mari de l'une que sur l'amant de l'autre. Et ce dont je ne doute pas, c'est du cadavre. Il faudra qu'il vous poursuive. La première qualité de l'art et son but est l'illusion. L'émotion, laquelle s'obtient souvent par certains sacrifices de détails poétiques, est une toute autre chose, et d'un ordre inférieur. J'ai pleuré à des mélodrames qui ne valaient pas 4 sous, et Goethe ne m'a jamais mouillé l'œil, si ce n'est d'admiration. À Louise Collet, Croisset, mercredi, 1h du matin, 21 septembre 1853. Non, tout mon bonheur n'est pas dans mon travail et je plane peu sur les ailes de l'inspiration. Mon travail, au contraire, fait mon chagrin. La littérature est un vésicatoire qui me démange. Je me gratte par là jusqu'au sang. Cette volonté qui m'emplit n'empêche pas les découragements ni les lassitudes. Ah, tu crois que je vis en brahmane, dans une absorption suprême, et humant, les yeux clos, le parfum de mes songes ? Que ne le puis-je ? Plus que toi, j'ai envie de sortir de là, de cette œuvre, j'entends. Voilà 2 ans que j'y suis. C'est long, 2 ans, toujours avec les mêmes personnages, et à patauger dans un milieu aussi fétide. Ce qui m'assomme, ce n'est ni le mot, ni la composition, mais mon objectif. Je n'y ai rien qui soit excitant. Quand j'aborde une situation, elle me dégoûte d'avance par sa vulgarité. Je ne fais autre chose que de doser de la merde. À la fin de la semaine prochaine, j'espère être au milieu de mes comices. Ce sera ou ignoble ou fort beau. L'envergure surtout m'en plaît. Mais ce n'est point facile à décrocher. Voilà 3 fois que Bouillet me fait refaire un paragraphe, lequel n'est point encore venu. Il s'agit de décrire l'effet d'un homme qui allume des lampions. Il faut que ça fasse rire, et jusqu'à présent, c'est très froid. Tu vois, bonne chère muse, que nous ne nous ménageons guère. Bouillet part pour Paris pour s'aller chercher un logement. Puis il reviendra pendant 8 jours, et puis adieu. Quand donc ferai-je comme lui? Quand me décrocherai-je de mon rocher? Mais j'entends mes plumes qui me disent, comme les oiseaux voyageurs à René, « Homme, la saison de ta migration n'est point encore venue. » Ah, je pense à toi souvent, va, plus souvent que je ne le voudrais. Cela m'amollit, m'attriste, me retarde. Puisque j'ai commencé ici et dans un système lent, il faut finir de même. Pour une installation à Paris, et le temps que ça me demanderait avant d'y être habitué, il faudrait des mois. Et en 4 ou 5 mois, on fait de la besogne. Dans le dernier numéro de la revue, il y a un conte de Pichat qui m'a fait rire pour plus de 50 francs, comme dit Rabelais. Lis-moi ça un peu. Du reste, ça sert beaucoup, le mauvais, quand il arrive à être de ce tonneau-là. La lecture de ce conte m'a fait enlever dans la Bovary une expression commune dont je n'avais pas eu conscience et que j'ai remarquée là. À Louise Collet, Croisset, mercredi minuit et demi, jeudi 22 septembre 1853. J'ai bien travaillé aujourd'hui. Dans une huitaine, je serai au milieu de mes comices que je commence maintenant à comprendre. J'ai un fouillis de bêtes et de gens beuglants et bavardants, avec mes amoureux en dessus, qui sera bon, je crois. À Louise Collet, Croisset, vendredi minuit, 30 septembre 1853. Me voilà à peu près au milieu de mes comices. J'ai fait 15 pages ce mois, mais non fini. Est-ce bon ou mauvais? Je n'en sais rien. Quelle difficulté que le dialogue, quand on veut surtout que le dialogue ait du caractère. Peindre par le dialogue et qu'il n'en soit pas moins vif, précis, et toujours distingué en restant même banal, cela est monstrueux, et je ne sache personne qui l'ait fait dans un livre. Il faut écrire les dialogues dans le style de la comédie, et les narrations avec le style de l'épopée. Ce soir, j'ai encore recommencé sur un nouveau plan ma maudite page des Lampions que j'ai déjà écrite 4 fois. Il y a de quoi se casser la tête contre le mur. Il s'agit, en une page, de peindre les gradations d'enthousiasme d'une multitude à propos d'un bonhomme qui, sur la façade d'une mairie, place successivement plusieurs lampions. Il faut qu'on voie la foule gueuler d'étonnement et de joie. Et cela sans charge ni réflexion de l'auteur. Tu t'étonnes quelquefois de mes lettres, me dis-tu. Tu trouves qu'elles sont bien écrites, belle malice. Là, j'écris ce que je pense. Mais penser pour d'autres comme ils eussent pensé et les faire parler, quelle différence! Dans ce moment-ci, par exemple, je viens de montrer, dans un dialogue qui roule sur la pluie et le beau temps, un particulier qui doit être à la fois bon enfant, commun, un peu canaille et prétentieux. Et à travers tout cela, il faut qu'on voit qu'il pousse sa pointe. Au reste, toutes les difficultés que l'on éprouve en écrivant viennent du manque d'ordre. C'est une conviction que j'ai maintenant. Si vous vous acharnez à une tournure ou à une expression qui n'arrive pas, c'est que vous n'avez pas l'idée. L'image ou le sentiment bien net dans la tête amène le mot sur le papier. L'un coule de l'autre. Ce que l'on conçoit bien, etc. Je le relis maintenant, ce vieux père Boileau, ou plutôt je l'ai relu en entier. Je suis à présent à ses œuvres en prose. C'était un maître homme et un grand écrivain surtout, bien plus qu'un poète. Mais comme on l'a rendu bête! Quels piètres explicateurs et prôneurs il a eu! La race des professeurs de collège, pédants d'encre pâle, a vécu sur lui et l'a aminci, déchiqueté comme une horde de hannetons faite à un arbre. Il n'était déjà pas si touffu. N'importe, il était solide de racines et bien planté, droit, campé. À Louise Collet, Croisset, vendredi minuit, 7 octobre 1853. J'ai eu toute la soirée des maux d'estomac et de ventre à m'évanouir si j'en étais capable. Je crois que c'est une indigestion. J'ai aussi fort mal à la tête, je suis brisé. Voilà trop de nuits que je me couche tard. Depuis que nous sommes revenus de Trouville, je me suis rarement mis au lit avant 3 heures. C'est une bêtise, on s'épuise. Mais je voudrais tant avoir fini ce roman. Ah, quel découragement quelquefois. Quel rocher de Sisyphe à rouler que le style. Et la prose surtout. Ça n'est jamais fini. Cette semaine pourtant... Et surtout ce soir, malgré mes douleurs physiques, j'ai fait un grand pas. J'ai arrêté le plan du milieu de mes comices. C'est du dialogue à deux, coupé par un discours, des mots de la foule et du paysage. Mais quand les aurais-je fait ? Comme cela m'ennuie ! Ce qui m'attriste, c'est que je deviens triste, et bêtement, d'une façon sombre et rentrée. Oh, la Bovary, quelle meule usante c'est pour moi! À Louise Collet, Croisset, mercredi, minuit, 12 octobre 1853. J'ai la tête en feu, comme il me souvient de l'avoir eue après de longs jours passés à cheval. C'est que j'ai aujourd'hui rudement chevauché ma plume. J'écris depuis midi et demi sans désemparer, sauf de temps à autre pendant 5 minutes pour fumer une pipe et 1 heure tantôt pour dîner. Mes comices m'embêtaient tellement que j'ai lâché là, pour jusqu'à ce qu'ils soient finis, grec et latin. Et je ne fais plus que ça à partir d'aujourd'hui. Ça dure trop, il y a de quoi crever, et puis je veux t'aller voir. Quelle étrange créature tu fais, chère Louise, pour m'envoyer encore des diatribes, comme dirait mon pharmacien. À Louise Collet, Croisset, samedi, 11 h du soir, 15 octobre 1853. Je fais tout mon possible pour hâter mes maudits comices, afin de t'aller voir plus vite. Mais je suis désespéré. Tout mon travail de cette semaine est à refaire. Nous venons, nous deux, Bouillet, d'avoir une discussion de 3 heures à propos de 5 pages. J'ai fini par me rendre à ses raisons. Mais quelle galère ! J'en perds la tête. Il y a de quoi se pendre. À Louise Collet, Croisset, 1 heure, nuit de lundi. 17 octobre 1853. Je suis navré d'ennui et humilié d'impuissance. Le fond de mes comices est à refaire, c'est-à-dire tout mon dialogue d'amour dont je ne suis qu'à la moitié. Les idées me manquent. J'ai beau me creuser la tête, le cœur et les sens, il n'en jaillit rien. J'ai passé aujourd'hui toute la journée et jusqu'à maintenant à me vautrer à toutes les places de mon cabinet sans pouvoir non seulement écrire une ligne, mais trouver une pensée, un mouvement. Vide, vide complet. Ce livre, au point où j'en suis, me torture tellement, et si je trouvais un mot plus fort, je l'emploierais, que j'en suis parfois malade physiquement. Voilà 3 semaines que j'ai souvent des souleurs à défaillir. D'autres fois, ce sont des oppressions ou bien des envies de vomir à table. Tout me dégoûte. Je crois qu'aujourd'hui, je me serais pendu avec délices si l'orgueil ne m'en empêchait. Il est certain que je suis tenté parfois de foutre tout là et la Bovary d'abord. Quelle sacrée maudite idée j'ai eue de prendre un sujet pareil. Ah, je les aurais connus, les affres de l'art. Je sais ce que c'est que de mettre en style des sujets communs. Cette scène que je recommence était froide comme glace. Je vais faire du Paul de Kock. On va toujours du guindé au canaille. Pour éviter le commun, on tombe dans l'emphase. Et d'autre part, la simplicité est si voisine de la platitude. À Louise Collet, Croisset, dimanche, 5h, 23 octobre 1853. Dans 50 ou 60 pages, j'aurai fait un pas et l'époque de mon séjour à Paris se rapprochera. Comment se fait-il que j'ai fait de bonnes besognes cette semaine? Bouillet a été très content de mes comices. Je n'ai plus qu'un point qui m'embarrasse. Il trouve maintenant que c'est ardent, que ça marche. Franchement, je me suis roidi et fouetté jusqu'au sang. Pour que mon héroïne soupire d'amour, j'ai presque pleuré de rage. Enfin, encore un défilé de passé, ou à peu près. À Louise Collet, Croisset, mardi soir, minuit, 25 octobre 1853. Ma mère prétend que je deviens sec, hargneux et malveillant. Ça se peut. Il me semble pourtant que j'ai encore du jus au cœur. L'analyse que je fais continuellement sur moi me rend peut-être injuste à mon égard. Et puis, on ne pardonne pas assez à mes nerfs. Cela m'a ravagé la sensibilité pour le reste de mes jours. Elle s'émousse à tout bout de champ, s'use sur les moindres niaiseries, et pour ne pas crever, je la roule ainsi sur elle-même et me contracte en boule comme le hérisson qui montre toutes ses pointes. Je te fais souffrir, pauvre chère Louise. Mais penses-tu que ce soit par parti pris, par plaisir, et que je ne souffre pas de savoir que je te fais souffrir? Ce ne sont pas des larmes qui me viennent à cette idée, mais des cris de rage plutôt. De rage contre moi-même, contre mon travail, contre ma lenteur, contre la destinée qui veut que cela soit. Destinée, c'est un grand mot. Non, contre l'arrangement des choses. Et si je les dérange maintenant, je sens que tout croule. Si je savais que le chagrin te submergea. Et tu en as beaucoup depuis quelque temps. Je le devine au ton contraint de tes lettres. L'encre porte une odeur pour qui a du nez. Il y a tant de pensées entre une ligne et l'autre, et ce que l'on sent le mieux reste flottant sur le blanc du papier. Si j'apprenais enfin, ou que tu me dises, que tu n'y tiens plus de tristesse. Je quitterai tout et j'irai m'installer à Paris, comme si la Bovary était finie, et sans plus penser à la Bovary que si elle n'existait pas. Je la reprendrai plus tard, car de déménager ma pensée avec ma personne, c'est une tâche au-dessus de mes forces. Comme elle n'est jamais avec moi-même et nullement à ma disposition, que je ne fais pas du tout ce que je veux, mais ce qu'elle veut, un pli de rideau mis de travers, une mouche qui vole, Le bruit d'une charrette. Bonsoir, la voilà partie. J'ai peu la faculté de Napoléon Ier. Je ne travaillerai pas au bruit du canon. Celui de mon bois qui pète suffit à me donner quelquefois des soubresauts d'effroi. Je sais bien que tout cela est d'un enfant gâté et d'un piètre homme, en somme. Mais enfin, quand les poires sont gâtées, on ne les rend pas vertes. Oh, jeunesse, jeunesse, que je te regrette. Mais t'ai-je jamais connu ? Vous êtes heureux, vous autres, les poètes. Vous avez un déversoir dans vos vers. Quand quelque chose vous gêne, vous crachez un sonnet, et cela soulage le cœur. Mais nous autres, pauvres diables de prosateurs, à qui toute personnalité est interdite, et à moi surtout, songe donc à toutes les amertumes qui nous retombent sur l'âme, à toutes les glaires morales qui nous prennent à la gorge. La Bovary remarche. Bouillet a été content dimanche. Mais il était dans un tel état d'esprit et si disposé au tendre, pas à mon endroit cependant, qu'il l'a peut-être jugé trop bien. J'attends une seconde lecture pour être convaincu que je suis dans le bon chemin. Je ne dois pas en être loin cependant. Ces comices me demanderont bien encore 6 belles semaines, un bon mois après mon retour de Paris. Mais je n'ai plus guère que des difficultés d'exécution. Puis il faudra réécrire le tout, car c'est un peu gâché comme style. Plusieurs passages auront besoin d'être réécrits et d'autres désécrits. Ainsi, j'aurai été depuis le mois de juillet jusqu'à la fin de novembre à écrire une scène. Et si elle m'amusait encore. Mais ce livre, quelque bien réussi qu'il puisse être, ne me plaira jamais. Maintenant que je le comprends bien dans tout son ensemble, il me dégoûte. Tant pis, ça aura été une bonne école. J'aurais appris à faire du dialogue et du portrait. J'en écrirai d'autres. Le plaisir de la critique a bien aussi son charme. Et si un défaut que l'on découvre dans son œuvre vous fait concevoir une beauté supérieure, cette conception seule n'est-elle pas en soi-même une volupté, presque une promesse ?